France Culture.
On se trouve à l'église Saint-Médard, dans le quartier Saint-Marceau. L'église Saint-Médard, à l'époque de l'abbé de Choisy, venait d'être rénovée complètement, parce que pendant la Fronde, elle avait été complètement démolie, enfin saccagée. On est dans cette belle église où l'abbé de Choisy est venu s'installer et dans laquelle il faisait la quête. Il avait décidé à cette époque de venir dans ce quartier qui était un quartier bourgeois, s'installer et reprendre l'habit de femme.
L'abbé de Choisy, vis et légende travestie. Un documentaire de Camille Desombes, réalisé par Gilles Blanchard. Premier épisode, l'abbé flamboyant.
Quand il venait à Saint-Médard, il mettait un vêtement noir, boutonné jusqu'en haut et dessous une belle robe blanche et une longue queue. Et pour se faire accepter, habillé en femme, il a commencé par déboutonner 3-4 boutons du haut, puis 3-4 boutons du bas, parce que cet habit noir pouvait passer pour une soutane en réalité.
Fernande Gontier, biographe.
Et puis petit à petit, voyant qu'il était accepté par le curé de Saint-Médard, qui était ravi d'avoir un aristocrate dans sa paroisse, il a commencé à se vêtir de vêtements beaucoup plus... où il mettait une robe blanche et des dessous noirs, ou des dessous noirs, une robe noire et un dessous blanc. Il a commencé à remettre ses boucles d'oreilles, ses boucles qu'il avait héritées de sa mère. Alors il remettait ses diamants, ce qui fait qu'il a petit à petit été adopté comme femme en réalité. Et quand il faisait la quête à la grande messe, comme il dit, et aux vêpres, il avait 3 valets, un écuyer et une femme de chambre. Donc il était suivi déjà par 5 personnes. Enfin, il ne passait pas inaperçu. Et comme il dit, quand je faisais la quête ou quand je donnais le pain béni, l'église Saint-Médard ramassait énormément d'argent. Il y avait plusieurs chevaliers qui avaient même donné un écu d'or.
Le 16 août 1644 à Paris, François Timoléon de Choisy naît dans une famille de noblesse de robe quelques années à peine après Louis XIV. Religieux, courtisan et écrivain devenu académicien, on prête depuis sa mort à Choisy une œuvre littéraire disparate et une vie digne d'un roman.
Il naît dans une famille riche, mais qui n'est pas une famille de grande noblesse. C'est une famille de noblesse assez récente du côté de son père, puisque c'est une noblesse achetée. Il vient d'une lignée de bons hommes d'affaires, très habiles à faire fortune. Et du côté de sa mère, c'est une noblesse un petit peu plus ancienne, puisque sa mère vient de la famille d'un chancelier de France, le chancelier de l'hôpital, à l'époque des guerres de religion. Mais c'est une noblesse de robe, ça n'est pas une noblesse d'épée, donc c'est moins prestigieux que la grande noblesse de cour. Et sa mère est elle-même quelqu'un qui est extrêmement doué pour se faire des amis riches et puissants. Elle rend beaucoup de services, c'est une femme d'esprit, cultivée et jolie, mais un petit peu intrigante comme ça, et qui donc... essaie de vivre par ses relations. Sa mère s'inscrit vraiment dans une stratégie d'ascension sociale et à cette époque-là, avec ces origines-là, le meilleur moyen de grimper dans la société, c'est de se faire bien voir de personnes riches, puissantes et de vieille noblesse. Donc l'abbé de Choisy, Timoléon, j'espère qu'il me permettra cette familiarité, Timoléon, lui, il est élevé pour faire un parfait courtisan.
Fabienne Kérou, conservatrice à la bibliothèque de l'Arsenal.
Quand il naît, il arrive après 3 garçons et peut-être 5 filles. La plupart des filles vont mourir en bas âge et il a donc 2 frères aînés. Et il arrive plusieurs années après la dernière naissance, donc c'est vraiment le petit dernier de sa famille et c'est le petit préféré de sa mère. Sa mère est liée avec Anne d'Autriche. Timoléon a juste quelques années de moins que Louis XIV et son petit frère Philippe. Et Philippe, enfant, est très souvent reçu chez Madame de Choisy pour venir jouer, pour venir prendre le goûter, comme on dirait aujourd'hui. Et lorsqu'il est chez Madame de Choisy, Philippe aime beaucoup s'habiller en fille. Et Madame de Choisy, dit-on, pour faire sa cour à Monsieur, le frère du roi, donc le petit Timoléon est habillé également en fille. Jusqu'à l'âge de 18 ans, semble-t-il. Pour éviter que sa barbe ne pousse, on lui applique dès son jeune âge une pommade à base d'or piment qui est, semble-t-il, un dérivé de l'arsenic. Il y a des recettes assez effrayantes. Et puis, pour avoir la peau blanche et douce, tous les soirs, pendant très longtemps, Timoléon va appliquer de l'eau de veau et une pommade de pied de mouton sur son visage et sur son décolleté. Sa première charge ecclésiastique arrive pratiquement dès l'âge de ses 18 ans. Son premier bénéfice ecclésiastique. À cet âge-là, il cesse de s'habiller en fille, dit-il. Il prend la tonsure, qui est vraiment le premier pas vers une carrière ecclésiastique, sans avoir d'obligation autre, mais c'est le premier pas dans la cléricature. Et il reçoit son premier bénéfice, donc c'est en 1662. Et c'est le moment où il commence aussi des études de théologie en Sorbonne.
C'est un abbé, mais il n'est pas résident. Il peut se rendre en visite dans ses abbayes. Alors, il a été abbé de Saint-Saëns, c'est près de Dijon. Alors, il lui arrive d'y aller, mais pendant qu'il en est le titulaire, mais il n'y réside pas. C'est un abbé qui jouit des bénéfices de l'abbaye. On appelle ça un abbé commendataire. Donc, c'est une forme de pension ecclésiastique qui est accordée par les autorités et qui lui permet d'avoir des revenus tout en étant à la cour.
Et alors, un de ses manuscrits ou écrits parle d'une fugue à Bordeaux à l'âge de 20 ans.
C'est un épisode sur lequel il y a très très peu de sources, mis à part une ou deux allusions dans ses écrits donc, qui ont été publiés postérieurement à sa mort. On ne sait pas grand-chose, mais ça se serait passé en 1666, donc il aurait un peu plus de 20 ans déjà. Et il fait une fugue, il s'installe pendant quelques semaines à Bordeaux et il vit là, en tant qu'actrice, donc sous le costume féminin, il se fait passer pour femme et il se fait passer pour une actrice et il monte sur les planches. Il joue et il a beaucoup d'admirateurs auxquels, dit-il, il accorde quelques menues faveurs.
Il rejoint une troupe de théâtre et il joue Pouliot, il joue tous les gens à la mode, c'est-à-dire Racine, Corneille, Benserade, etc. C'est la première fois qu'il s'est habillé en femme, mais ouvertement. Et à 25 ans, sa mère décède. Donc, dans l'héritage, il ne demande que les bijoux de sa mère, la vaisselle, l'argent, les porcelaines, mais il ne veut pas d'argent. C'est ses frères qui héritent de tout. Et c'est à la mort de son frère aîné qu'il va hériter de son frère aîné, mais ça, c'est un peu plus tard. La seule chose qui l'intéresse, c'est cette paire de boucles d'oreilles qu'il répète plusieurs fois dans plusieurs de ses écrits qui coûtait 10 000 francs.
J'étais ravi d'avoir de belles pierreries. Je n'avais jamais eu que des boucles d'oreilles de 200 pistoles et quelques bagues. Au lieu que je me voyais des pendants d'oreilles de 10 000 francs, une croix de diamant de 5 000 francs et trois belles bagues. C'était de quoi me parer et faire la belle. Car depuis mon enfance, j'avais toujours aimé à m'habiller en fille. Mon aventure de Bordeaux le prouve assez, et quoique j'eusse alors 22 ans, mon visage ne s'y opposait point encore.
Libéré par la mort de sa mère, il est jeune, il est beau, il est riche, il est majeur, il vient d'avoir 25 ans, et donc il décide de vivre à sa guise. Il commence à s'habiller systématiquement en femme, il a pas mal de succès mondains, il sort, il va à la comédie. Et un jour qu'il est à l'opéra, il est invité à rejoindre la loge dans laquelle se trouve le dauphin, le premier fils de Louis XIV, qui a 8 ans, 10 ans, 12 ans, ça n'est pas très clair dans la chronologie établie par Choisy. Et le dauphin trouve que c'est une fort belle dame, et il est ravi de cette conversation, jusqu'au moment où le précepteur du dauphin, c'est le duc de Montausier, arrive dans la loge.
Et quand il voit Choisy habillé en femme, il explose. Il se met en colère, il lui dit non, 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 vous ne pouvez pas, devant monsieur, vous ne pouvez pas vous apparaître comme ça, habillé en femme. Et à ce moment-là, le petit prince dit, mais moi je la trouve très très belle. Enfin, toujours est-il qu'après cette histoire, il a décidé qu'il était temps d'aller se mettre au vert. Ses frères étaient venus, ils lui avaient dit, à la cour, il y a des rumeurs qui courent sur toi ou sur vous, et c'est à cette époque qu'il décide de partir à Bourges. Alors le départ à Bourges, ça aussi, ça c'est une histoire absolument extraordinaire. Il va s'installer donc à Bourges, comme s'il était une veuve. Il fait peindre son carrosse avec les armoiries de la veuve. Et le carrosse peint en noir, puisqu'elle est, c'est une jeune veuve.
Il cherche un lieu, pas trop éloigné de Paris, mais suffisamment pour ne pas y être connu. Et il fait acheter un château dans le Berry, aux alentours de Bourges. Et il arrive habillé en femme, avec toute une domesticité, du mobilier, etc., sous le nom de Comtesse des Barres.
J'étais coiffée avec mes cheveux noirs à grosses boucles, mes grands pendants d'oreilles de diamants, une douzaine de mouches, un collier de perles fausses plus belles que les fines, et d'ailleurs, en me voyant tant de pierreries, on n'eût jamais cru que j'eusse voulu rien porter de faux. On me regarda tant et plus. Ma parure, ma robe, mes diamants, la nouveauté, tout attirait l'attention. Après la messe, nous passâmes entre deux haies pour aller à notre carrosse. Et j'entendis plusieurs voix dans la foule qui disaient « Oh, voilà une belle femme !» Ce qui ne laissait pas de me faire plaisir.
Il s'installe dans ce château, il commence à recevoir petit à petit toute l'aristocratie du coin, toujours habillée mais en veuve, alors il est assez discret dans sa tenue.
Il fait profiter cette société berrichonne de ses talents de musicienne, puisque c'est un excellent claveciniste. Il est aussi passionné de théâtre. Et donc, voilà, une vie sociale, on se reçoit. Et grâce à cette familiarité, évidemment, il dit qu'il éblouit les femmes de la région, puisqu'il est à la dernière mode de Paris, il est extrêmement bien coiffé, il porte des vêtements très luxueux, il connaît tout ce qui est à la mode à la cour. Et donc, sous le prétexte d'aider une jeune fille à apprendre, notamment à bien se coiffer, eh bien, il convainc la mère de cette jeune fille, une jeune fille de bonne famille, Mademoiselle de la Grise, il convainc sa mère de lui confier la jeune fille pendant quelques jours chez lui au château.
Je rappelle qu'il est de coutume dans toute cette période d'Ancien Régime, d'une part que les femmes partagent le même lit.
Mathieu Brunet, spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle.
Et d'autre part que la chambre, le lit, est un lieu social, dans lequel on reçoit, dans lequel se tiennent des conversations entre celle qui est au lit et puis ses visiteurs qui sont disposés sur quelques fauteuils autour de ce lit.
Il y a les parents qui sont là et ils caressent la gamine jusqu'à, si on comprend bien ce qu'il dit, jusqu'aux derniers outrages, comme on dirait à l'époque. Et tout le monde s'émerveille. En disant, mais caressez encore, mon Dieu, comme vous vous aimez beaucoup, comme vous vous caressez bien. J'ai quelques doutes quand même sur cette échelle de voyeurisme, moi, enfin bon.
Ça paraît un peu romancé.
Oui, ça paraît un peu forcé, mais vous savez, après il y a les romans libertins du 18e où on raconte des choses tout aussi croustillantes.
Après cet épisode avec Mademoiselle de la Grise, il se rend compte que peut-être continuer ce genre de jeu assez dangereux avec une jeune fille de la bonne société, c'est assez périlleux et peut-être se lasse-t-il également de la jeune fille. Et donc il l'encourage et il encourage sa mère à la marier à quelqu'un. Et il s'amourache d'une jeune comédienne qui fait partie d'une troupe de théâtre itinérant qui est en train de donner des représentations donc à Bourges. Là encore, c'est une jeune fille très jeune, elle a à peu près 15 ou 16 ans. Toutes les conquêtes de l'abbé de Choisy sont à peu près dans cette tranche d'âge. Il prend Rosélie chez lui et ils vivent ensemble. Et il lui demande de se travestir en garçon. Donc lui reste sous son identité de comtesse des Barres. Rosélie, elle, s'habille en jeune homme. Mais au bout de quelques temps, il y a des conséquences. Rosélie tombe enceinte. Et là, ça devient difficile de maintenir la fiction puisque la grossesse ne va pas pouvoir être cachée pendant trop longtemps. Donc il est temps de retourner à Paris où l'on peut vivre plus discrètement. Et donc il retourne avec Rosélie à Paris jusqu'à la naissance de l'enfant qui sera une petite fille que Choisy fera élever et qu'il mariera ensuite avec une dot confortable. Et Rosélie à Paris retrouve un comédien. Donc Rosélie se marie. Et c'est la fin de l'histoire de la comtesse des Barres. Quelques temps plus tard, semble-t-il, donc deux ou trois ans après, donc là on serait plutôt aux alentours des années 1673, Choisy dit qu'il est repris par sa passion et sa fantaisie de s'habiller en femme. pour vivre discrètement. Cette fois-ci, il ne part pas en province, mais il va s'installer dans un faubourg de Paris, le faubourg Saint-Marceau. Il achète une maison aux alentours de l'église Saint-Médard. Et à cette époque-là, c'est un quartier tout à fait excentré. Et c'est un quartier où habitent principalement des bourgeois, des artisans et des ouvriers, c'est-à-dire pas de noblesse de cour. Donc il est inconnu. Et là, il arrive en habit masculin, en habit semi-ecclésiastique, disons. Et petit à petit, il habitue le voisinage à le voir avec des vêtements qui se féminisent de plus en plus. Donc il a une espèce de stratégie. Il se fait ainsi, dit-il, accepter de tout le quartier, y compris du curé de Saint-Médard, qui est un de ses invités réguliers, puisque là aussi, il tient salon, il réunit ses voisines, se fait des petites soirées tout à fait mondaines et agréables.
J'avais un oncle conseiller d'État, qui, sachant que je m'habillais en femme, me vint trouver un matin pour me bien gronder. J'étais à ma toilette et venais de prendre ma chemise. Je me levai. « Non !» dit-il. « Asseyez-vous et habillez-vous. » Il s'assit aussitôt vis-à-vis de moi. « Puisque vous me l'ordonnez, lui dis-je, mon cher oncle, je vous obéis. Il est 11 heures et il faut aller à la messe. » Je mis une perruque fort frisée et fort poudrée. Le bonhomme ne disait mot. « Cela sera bientôt fait, cher oncle, lui dis-je. » Je n'ai plus qu'à mettre mes pendants d'oreilles et 5 ou 6 mouches. Ce que je fis en ce moment. Ah, ce que je vois, me dit-il, il faut que je t'appelle ma nièce. En vérité, tu es bien jolie. Je lui sautai au col et le baisai 2 ou 3 fois. Il ne me fit point d'autre réprimande, me fit monter dans son carrosse et me mena à la messe et dîner chez lui.
Là encore, intervient une histoire d'amour avec une jeune fille, puisque l'une de ses voisines, qui s'appelle Charlotte, tombe amoureuse de lui. Et il prend Charlotte sous son aile, et il fait habiller Charlotte, là aussi, en jeune homme. Il y a même une espèce de mariage fictif qui se déroule au moment du carnaval. Donc Charlotte prend le nom de Monsieur de Mauny, puisque... à cette époque, choisit à l'intention de lui donner une terre qui porte ce nom-là, donc elle aurait le droit de porter le nom de cette terre. Donc Charlotte, habillée en homme, choisit habillée en femme, font ce simulacre de mariage et vivent ensemble pendant quelque temps. À un certain stade, François Mansart, qui est l'intendant des bâtiments royaux, vient le trouver au faubourg Saint-Marceau et lui dit qu'il est en grand danger de perdre son appartement qu'il occupe depuis sa jeunesse, que ses parents ont occupé avant lui, au palais du Luxembourg. Le palais du Luxembourg appartient au roi et Choisy donc n'occupe pas son appartement et s'il ne revient pas habiter à son appartement, il va le perdre. Et c'est là qu'il décide de quitter cette incarnation de Madame de Sancy. Et donc voilà, il reprend son habit masculin.
Et alors on dit que, par contre, il tomberait dans une autre de ses passions, qui est celle du jeu.
C'est ça. Il semblerait qu'il y ait une alternance. Quand il vit comme une femme, il ne joue pas. Quand il vit comme un homme, il joue. Et il joue de manière totalement effrénée. Et c'est justement à la suite de cet épisode donc de Madame de Sancy, pour se consoler de la fin de sa vie en femme, il se jette dans le jeu. Et c'est à ce moment-là qu'il va perdre vraiment des fortunes, perdre ses magnifiques pendants d'oreilles en diamant. C'est un drame dans sa vie. Et il va aussi être obligé de vendre les propriétés qu'il a héritées de ses frères et de sa famille. Et il va aussi être obligé d'emprunter, même les revenus de ses bénéfices ecclésiastiques vont être obérés par cette passion dévorante.
Il est tombé extrêmement malade. Il lui a donné l'extrême onction, il croyait vraiment qu'il allait mourir. Et à partir de là, il a décidé qu'il fallait quand même que, étant abbé, il allait se consacrer à la religion chrétienne. Il est parti à la mission étrangère. On lui a susurré qu'il allait avoir une ambassade qui allait partir pour le Siam. Malheureusement, on a déjà nommé un ambassadeur. Alors, ce qu'il va faire, il va dire qu'il faut un coadjuteur. comme c'est un très long voyage, au cas où l'ambassadeur mourrait dans le voyage. Donc, on lui donne ce titre et il part pour le Siam sur deux bateaux et il va en rester presque 6 mois en mer. Et alors là, il y a ce côté différent, parce qu'on voit toujours l'abbé habillé en femme, qui a des aventures féminines. Là, on va voir un homme qui est vraiment extrêmement curieux de tout. Pendant son voyage, il va apprendre tout sur la navigation, sur les étoiles, sur comment on chargeait les bateaux, comment... Le récit de voyage au Siam, c'est un journal, il décrit tous les jours ce qu'il voit, les étoiles, les tempêtes, la réaction des gens. Et quand il arrive au Siam, il va être reçu comme l'ambassadeur, très somptueusement par le roi de Siam. Il est absolument étonné de la richesse de la cour, mais il a tout de suite compris que le roi de Siam n'était pas du tout intéressé par le catholicisme en réalité. Ce qui l'intéressait, c'était de se débarrasser des Hollandais qui essayaient de s'emparer des richesses du Siam. Mais il n'est pas du tout question qu'ils se convertissent au catholicisme.
À 4h après-midi, le roi est sorti du palais sur son éléphant. Toutes les rues étaient bordées de gardes à pied et à cheval. Les gardes à pied avaient un pot, une cuirasse et un bouclier doré. Les maures étaient à cheval bien montés et avaient fort bonne mine. Les mandarins allaient devant et après le roi, avec leur bonnet de cérémonie fait en pyramide entouré de plusieurs cercles d'or, chacun suivant sa dignité. Après le roi, marchait l'éléphant de parade, qui portait une chaise d'or massif. Et puis venait le jeune mandarin que le roi traite comme s'il était son fils. Il avait seul la tête haute. Tout le reste avait la tête baissée sur le cou de son éléphant. Je vous assure que ce cortège était royal et fort singulier. Et je crois que Pharaon sur les bords du Nil se promenait à peu près avec la même pompe.
Après avoir frôlé la mort, François Timoléon de Choisy entame donc une carrière d'écrivain religieux et d'historien, publiant de nombreux livres de son vivant. Le récit de son voyage au Siam, grand succès littéraire, contribue à le faire entrer à l'Académie française.
Il ne publie rien avant 1682. Cette année-là, il présente, en même temps que l'original, une traduction de l'histoire de la guerre de Hollande d'un de ses amis, qui s'appelle le Primi Visconti, et qui avait écrit donc cette histoire en italien.
Frédéric Charbonneau, professeur d'histoire littéraire française.
Dans les années suivantes, en fait, en 1685, il publie avec un autre de ses amis, l'abbé de Tangeau, qui est un abbé de cour lui aussi, très important, très proche de Louis XIV, qui est l'auteur d'un journal qui est une des sources fondamentales d'informations, je dirais, factuelles sur le règne de Louis XIV. Et donc avec l'abbé de Tangeau, il publie 4 dialogues sur des questions de religion et de vie spirituelle. En 1685 et 86, et au retour de l'ambassade de Siam, en 1687, il y a une année très dense du point de vue littéraire. Il publie non seulement le journal de son voyage au Siam, mais l'interprétation des psaumes avec la vie de David. Donc c'est un de ses premiers textes d'histoire religieuse. Et c'est à ce moment-là qu'il est élu à l'Académie. Il va également publier pendant la même année une vie de Salomon et des pensées chrétiennes. Il s'occupera de l'histoire de France à partir de l'année suivante. L'histoire de Philippe de Valois et du roi Jean, puis une vie de Saint-Louis en 1689. Une histoire de Charles V.
Et alors on lui prête à la fin de sa vie aussi des textes sur la piété et la morale. Est-ce qu'on peut dire que Choisy à la fin de sa vie était une sorte de représentant de la vertu?
C'est un auteur spirituel. Il avait la réputation d'être un homme... affable, éloquent, tout à fait respectable. Et effectivement, il a écrit dans les premières années du XVIIIe siècle, en tout cas il l'a publié dans les premières années du XVIIIe siècle, une vie de Madame de Miramion, qui était une parente, et puis des histoires de piété et de morale. Effectivement, il est devenu également doyen du chapitre de la cathédrale de Bayeux en 1699. C'est une époque où il se prépare à écrire une longue histoire de l'Église en 11 tomes. À ce moment-là, il représente, c'est déjà un homme âgé, il représente certainement une figure respectée. Je ne sais pas si c'est une figure de la vertu, mais une figure respectée certainement au sein de la société à la fois académique et religieuse.
Et c'est peut-être aussi à ce moment-là, plutôt dans les 20 dernières années de sa vie, qu'il écrit pour lui. Il le dit plusieurs fois dans son texte d'ailleurs. « J'écris pour moi, ces textes ne seront jamais publiés de mon vivant », etc. Donc il commence à écrire des histoires de sa jeunesse, l'histoire du règne de Louis XIV, et puis aussi le récit de la comtesse des Barres et le récit de Madame de Sancy. À la fin de sa vie, il est assez pauvre, comme je vous le disais, puisqu'il a perdu beaucoup d'argent, il est très endetté, donc il a beaucoup de difficultés. C'est là qu'il fréquente le marquis d'Argenson, qui est un de ses parents, c'est son arrière-petit-neveu du côté de la mère du marquis, et il lui raconte des histoires de sa jeunesse. Et le marquis, qui est un jeune homme à l'époque, est bien étonné d'entendre le récit de toutes ses aventures. Et donc, il meurt le 2 octobre 1724, il est octogénaire. Et c'est ainsi donc que ses papiers sont remis au marquis d'Argenson et que par la suite, ces papiers vont donc être publiés peu à peu et partiellement.
C'est un personnage que je rapprocherai de Proust dans sa façon de collecter des renseignements. Il écrit à ses amis, il leur demande de raconter. Et à partir de ça, il va écrire ses mémoires. Mais il est d'une curiosité étonnante. Et il a un style qui est très moderne en un certain sens. Il n'est pas très difficile à lire. Il a beaucoup d'humour et il a un style assez emporté. Bon, évidemment, c'est un style 17e, mais vraiment facile à lire. Le journal du voyage au Siam, par exemple, les descriptions qu'il donne quand il est sur un éléphant, et qu'il raconte l'histoire des éléphants blancs qu'avait le roi de Siam, c'est vraiment très, très coloré et, c'est vrai, et très imagé. C'est très cinématographique, on pourrait vraiment faire un film de ces descriptions du Siam, par exemple.
Il y a des débats récents qui ont émergé sur l'authenticité de l'œuvre de Choisy, notamment ses écrits sur le travestissement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il est possible que une partie de ce qu'on connaît jusqu'ici de la vie de Choisy soit romancée ou exagérée?
C'est possible que ce soit un peu romancé, mais vous savez, c'était le roi du pastiche aussi. Quand, par exemple, on lui demande d'écrire des contes à la façon des contes, il le fait, donc il pastiche Perrault, etc. Je pense qu'il a peut-être un peu outré quand il fait ses descriptions avec ses amantes dans son lit. Je ne sais pas s'il a exagéré, pas exagéré, mais vous savez, il a inspiré toute une génération de romanciers. Par exemple, les aventures du chevalier de Faublas sont directement inspirées de l'abbé de Choisy.
Oui, en fait, que cette histoire soit vraie ou une légende,
qu'importe, c'est très intéressant.
C'était l'abbé Flamboyant avec Fernande Gontier, Fabienne Quéroux, Frédéric Charbonneau et Mathieu Brunet. À suivre, le second épisode, La fabrique d'un mythe.